Prime Vert, le salon rencontre de l'altérécologie, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors nous sommes au salon Prime Vert de Lyon, le salon rencontre de l'altérécologie, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Martin Roth, qui est le délégué de la région Occitanie de l'association Démographie Responsable. Peut-être que si vous vous baladez sur le salon, vous avez peut-être vu son stand. Effectivement, il y a notamment une affiche qui vous a peut-être attiré l'œil, où il y a un préservatif qui entoure une planète Terre. Alors en tout cas, Martin, bonjour et merci en tout cas d'avoir pris le temps d'être avec nous. Oui. Martin, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est l'association Démographie Responsable ?
Alors, l'association Démographie Responsable est une association qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a à peu près 350 adhérents qui payent leurs cotisations. Voilà, l'objectif de cette association, c'est en quelque sorte alerter le public sur la question démographique et sur les conséquences qu'une démographie non maîtrisée, une démographie, je dirais, irresponsable, fait peser sur la Terre et sur l'écologie. Et moi-même, je suis responsable de l'Occitanie, hein, donc j'anime un peu la région Occitanie, voilà.
Quelles sont du coup les actions de votre association ?
Nos actions sont d'une part, on a un site internet avec les informations, avec l'argumentation. On a une page Facebook. On fait des conférences, par exemple là au salon, je ne sais pas comment il s'appelle, à Paris. On a notre président a parlé de l'impact qu'une démographie non maîtrisée a sur les épidémies, sur les pandémies, parce que là aussi il y a une relation. Plus on est nombreux, plus on s'approche de la faune sauvage avec nos animaux domestiques, plus il y aura des pandémies. Bon. Donc il y a les conférences, moi-même particulièrement je m'intéresse à la question démographie et théologie, hein, qui est assez important parce que toute l'écologie politique qui est située à gauche en France, elle s'inspire très curieusement d'une encyclique papale qui s'appelle Laudato Si, et où ils font un lien toujours entre l'écologie et la justice sociale. Voilà, et quand vous écoutez un discours de Jadot ou quelqu'un de responsable, il lit toujours les deux choses. Et nous, on pense que l'écologie, elle n'est ni de droite ni de gauche, et c'est un problème écologique, factuel, et dans ce facteur, la démographie est essentielle.
Quel constat fait l'association Démographie Responsable sur la situation actuelle de la planète ?
Alors, il faut savoir que l'impact écologique sur la Terre est le résultat de deux facteurs. C'est la consommation individuelle qui est élevée en Occident, qui est plus faible dans le tiers-monde. Et du nombre. Plus on est nombreux, plus on consomme, quelle que soit en quelque sorte la consommation individuelle. C'est mathématique. On sait que depuis 1971, l'humanité est en dépassement écologique, c'est-à-dire on va au-delà des ressources qui peuvent se renouveler naturellement. Et le grand public connaît bien le jour du dépassement qui se situe pratiquement chaque année un peu plus en aval, hein, c'est-à-dire 31 juillet, bientôt ça va être le 20 juillet et tout ça, parce qu'on utilise les ressources de la Terre. Ça, c'est le constat de base. Et ensuite, face à ça, on a d'une part une consommation effrénée chez nous, hein, ça c'est sûr, mais on a aussi une démographie galopante sur la Terre. La Terre comptait, du temps de Jésus, 100 millions d'habitants. Non, dans l'arc méditerranéen, c'était 20 millions, mais on ne sait pas trop combien il était en Chine. En 1800, dans Napoléon, hein, on était 1 milliard. Maintenant, l'année prochaine, on sera 8 milliards. Et en 2050, on sera, d'après les estimations de l'ONU, on sera 9,5 milliards. Et on ne sait pas trop comment après. Il y en a qui disent en 2100, on sera 11 milliards. Bon, ça, on ne sait pas trop. La population, elle diminue dans l'Occident, en France, en Europe, particulièrement en Allemagne et tout ça, mais elle augmente dans le tiers-monde. Par exemple, l'Afrique qui compte aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants, ce qui est le double de ce qu'ils avaient il y a 22 ans, aura en 2050 2,5 milliards. Et donc, c'est tout à fait intenable, hein, parce que la Terre est un espace limité. Et ça a deux conséquences. D'une part, c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique, notamment le réchauffement de la Terre par l'utilisation des effets de gaz de serre. Mais c'est aussi par le nombre, on occupe de plus en plus nature, on réduit la nature, on réduit, il y a moitié moins d'oiseaux, ben, parce qu'il y a plus de monde, et en Afrique, la faune sauvage disparaît parce que les villes s'étendent, parce que les cultures, les gens, notamment en Afrique, ben, voilà, ils veulent vivre, donc ils... Et il y a un facteur qu'on oublie toujours, pratiquement tous les conflits, sauf celui d'Ukraine, hein, je dois dire, ont une connotation démographique. Hein. Par exemple, on dit Syrie, ouais, c'est une guerre de religion, etc. C'est faux. La population de Syrie, dans 30 ans, elle a doublé. Et quand une population double, ça crée des problèmes. C'est-à-dire, vous êtes à l'étroit, vous regardez votre voisin et dites, tiens, ça serait bien si j'avais son jardin. Et vous constatez qu'il est chiite, qu'il est sunnite, qu'il est chrétien, et ça lui donne un prétexte. Tout ça. Et en Afrique, c'est pareil, c'est tout à fait pareil. Hein. Le Mali, il a 25 millions d'habitants, c'est aberrant. Hein. Et peut-être un facteur qu'on oublie toujours et que j'ai ici dans cette, c'est-à-dire... La qualité de vie qu'on a pratiquement dépend aussi de notre faculté d'être solitaire. L'homme est un être solidaire, on veut être en communauté, mais de temps en temps, on veut être solitaire, on veut. Or, il y a des pays où on n'est jamais seul, personne n'est jamais seul. Ou quelqu'un qui habite à Lagos ou qui habite à Dhaka en Bangladesh, il n'est jamais seul. Même sur les toilettes, il ne peut pas être seul. Et ça, je veux dire, c'est terrible comme constat. Hein, que, je veux dire, donc, plus on est nombreux, moins on c'est le stress de la foule. Vous le connaissez, il y a un stress de foule.
Je me permets de rebondir sur ce que vous dites sur le fait d'être solitaire. Pour autant, moi, ce que ça me fait évoquer, c'est plutôt que la différence qu'on pourrait avoir à vivre, par exemple, en campagne, voire reculer, notamment, je ne sais pas, moi, dans la Creuse ou dans des endroits qui, pour l'instant, nous paraissent beaucoup plus sauvages que les zones urbaines, fait que, effectivement, les infrastructures qui peuvent être mises en place pour nous apporter des services tels que l'eau, l'électricité, font que ça demande plus d'efforts de le faire dans des zones reculées, là où les gens sont plus solitaires, que ça ne peut l'être, en tout cas, sur les zones urbaines. Donc, je ne suis pas sûr, en tout cas, de comprendre le besoin, en tout cas, de la solitude.
Mais enfin, il y a un constat. La France n'a jamais été aussi belle que quand elle avait 40 millions d'habitants. C'est-à-dire, c'était vraiment les beaux paysages. Aujourd'hui, le paysage est complètement mité. J'habite un petit bourg, là, dans le Gard. Eh bien, tous les bourgs, ils ont leur centre historique et autour, ils ont des lotissements. Ils ont des lotissements. Évidemment, les gens dans les lotissements, ils se déplacent en voiture. Et évidemment, s'ils vont vivre sur le Mont-Aigoual, ils vont quand même vouloir avoir un certain confort. Hein. Même les écolos les plus ardus, bon, il leur faut quand même la bagnole, il leur faut quand même l'électricité, hein, sinon c'est difficile. Voilà. et tout le monde a son smartphone, etc. etc. Par contre, c'est certain, si on était moins nombreux, tous ces problèmes se poseraient moins. C'est évident.
Quelle solution, du coup, préconisez-vous et vous et votre association?
Alors, il y a... C'est la question la plus difficile. On peut constater qu'il y a un lien. Au fait, l'explosion démographique est venue par le progrès de la médecine. Et ensuite, en Occident, il y a eu ce qu'on appelle la transition démographique. Donc, avant, les familles avaient 7 enfants, 8 enfants, la moitié mouraient. Plus tard, ils avaient continué à avoir 8 enfants, ils ne mouraient plus. Mais en même temps, avec le progrès économique, avec l'émancipation des femmes, les gens faisaient moins d'enfants. Dans ce qu'on appelle, d'abord, il y a une explosion de la natalité et qui est suivie par et de la longévité de la vie, surtout. Hein. C'est la natalité et la longévité, les plus vieux. Et finalement, la courbe descend parce que les gens font de moins en moins d'enfants. Et ce modèle-là, en quelque sorte, fonctionne pas dans le tiers-monde. Il fonctionne pas dans le tiers-monde parce que le progrès économique et l'émancipation des femmes qui serait la condition pour qu'il y ait moins d'enfants ne se met pas en place parce qu'il y a en quelque sorte une vague démographique qui fait que on construit une école, mais il faudrait en construire 7. Et donc, vous avez toujours ce décalage qui s'exprime par, on dit toujours, il faut éduquer les femmes, c'est certain, mais pour éduquer les femmes, il faut émanciper les femmes pour qu'il y ait moins d'enfants, pour qu'ils fassent la contraception, pour éduquer les femmes, il faut qu'il y ait un substrat économique qui le permet, et surtout pas le patriarcat comme là. Il y a certainement dans les pays du Sahel beaucoup de femmes qui seraient contentes de ne pas avoir moins d'enfants, mais c'est les hommes qui l'ont imposé. Donc, c'est lié, tout est lié. Quand j'étais jeune, ma sœur me disait, écoute, tu vas voir, quand les femmes en Afrique seront éduquées, ça va se résoudre. C'est vrai en théorie, mais dans la pratique, ça ne se met pas en place. Ça ne se met pas en place. Au contraire, je dirais, avec les fanatismes religieux. Au contraire, il y a l'exemple de la Chine. La Chine, elle a fait d'abord un contrôle de naissance consensuel et ensuite il y a la politique d'un enfant, qui était une politique de force. Hein. On a forcé les gens, il y a eu des assassinats. C'est pas bien. Mais le résultat, aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique du monde. Et dans les années 50, on suppose qu'il y a 100 millions de Chinois qui sont morts de faim. Aujourd'hui, aucun Chinois meurt de faim. Ça prouve, en quelque sorte, on peut aussi dire, au lieu d'attendre que la démographie se met en place par l'éducation des filles, on peut dire, tiens, on va vraiment essayer par tous les moyens de freiner la démographie et ensuite, le progrès va se mettre en place.
Prime Vert, le salon rencontre de l'altérécologie.
Ce serait plus l'histoire d'un courage politique, finalement? Qui amènerait des mesures plus concrètes
et plus faciles
à mettre en place rapidement.
Évidemment, en France, comme dans l'Occident, comme il y a le vieillissement, on dit, tiens, voilà, il faut des jeunes pour payer les retraites. C'est un leurre, parce que c'est une fuite en avant, parce que les jeunes, un jour, ils vont à la retraite. Et on a constaté quand même, moins il y a de jeunes qui travaillent, plus... La contrainte d'une progrès technologique est important. Quand il y a beaucoup de main-d'œuvre dans le tiers-monde, main-d'œuvre, voilà, il n'y a pas de progrès. Tu as les serveurs, tu les payes lance-pierre et tout ça. Par contre, s'il y a moins, il y a des progrès économiques à faire. Donc, les retraites, le vieillissement de la population qui nécessite des soins, c'est un problème, mais je trouve que c'est un problème secondaire par rapport à l'impact écologique qu'il y a.
Alors, qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux personnes, justement, comme on l'a évoqué en off tout à l'heure, justement, qui vous disent, oui, mais par exemple, les pays que vous avez évoqués, notamment ceux du continent africain et parfois de d'autres régions du monde, sont peut-être des personnes, effectivement, qui ont beaucoup d'enfants par foyer, beaucoup plus, en tout cas, qu'en Occident, mais qui, pour autant, polluent beaucoup moins, consomment beaucoup moins de ressources que ne le fait l'Occident.
Bah, ils consomment beaucoup moins, mais par le nombre, ils consomment quand même à la fin pas mal. Et ensuite, ils ont une aspiration à une vie meilleure. Ils veulent manger 2 poules par semaine. Ils veulent envoyer leurs enfants à l'école. Ils veulent vivre mieux. Or, actuellement, dans le monde actuel, une augmentation du niveau de vie va ensemble avec une augmentation d'énergie. Notre société, elle est basée sur l'énergie. Hein, sinon, la radio, elle ne fonctionnait pas. Et donc, de toute façon, les Africains ne pourraient pas les empêcher, en quelque sorte, de consommer davantage. Bon. Nous, on devrait consommer moins. Mais là aussi, il y a un très grand leurre. On dit on va avoir une transition écologique qui fait que c'est pas la décroissance. On parle de croissance soutenable, etc. Personne ne veut la décroissance. Ni la décroissance de la consommation, parce que là, tous les partis de gauche, ils veulent augmenter le SMIC. Augmenter le SMIC, ça veut dire consommer davantage, point barre, hein. Donc, il faudrait une décroissance de la consommation, mais aussi une décroissance démographique. Et la transition écologique, telle qu'on l'aperçoit, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un leurre parce que, je veux dire, elle va ensemble, la transition écologique telle qu'elle est conçue aujourd'hui, elle va ensemble avec un gaspillage de ressources extraordinaire pour faire les éoliennes, pour faire les panneaux et tout ça, et les voitures électriques, etc. Ça demande des ressources extraordinaires en ressources naturelles, en minéraux, hein, tout ça. Donc, la seule solution pour moi, c'est la décroissance à la fois de la consommation et de la population. Mais ne leurrons pas, on dit, tu as la décroissance, il faut prendre l'argent aux riches et tout ça, c'est faux, hein, c'est faux. Parce que si vous preniez l'argent de Bernard Arnault, dit tiens voilà bon celui-là on va exproprier, on le donnerait ici aux visiteurs tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le consommer. D'ailleurs dans notre système on peut pas échapper. Si vous par exemple vous dites mon téléphone je l'utilise plus, la voiture je l'utilise plus, qu'est-ce qui se passe? Vous aurez sur votre compte 500 euros de plus par mois, hein, supposons. Qu'est-ce que vous faites avec les 500 euros? Vous les dépensez. Ça restera dans le circuit. Et tant que la société est une société énergivore, ça ne sert à rien du tout, à moins que vous brûliez l'argent.
Je me permets de rebondir du coup sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir l'idée éventuellement que pour faire des retraites, vous parliez du fait que moins on a de jeunes qui sont en âge de travailler, plus il y a de progrès techniques. Pour autant, je pense qu'on arrive aussi à une réflexion plus philosophique de repenser la technologie et donc d'aller soit vers une décroissance, mais qui se veut aussi vers des low-tech. Et du coup, est-ce qu'on considère qu'il y a plus de technologie s'il y a plus de low-tech? Et s'il y a plus de low-tech, est-ce que ça voudrait dire...
Qu'est-ce que vous entendez par low-tech?
Tout ce qui est très énergivore, tout ce genre de... Enfin, finalement, de revenir vers une sobriété de technologie qui nous amènera à repenser complètement notre...
C'est très bien la sobriété, tout le monde maintenant est pour la sobriété. Il faut dire, il y a la sobriété personnelle et c'est très bien... si vous êtes sobre. Mais pratiquement, le problème, c'est le collectif. C'est le collectif. Par exemple, la sobriété aurait aussi pour conséquence que pratiquement les soins médicaux, tout le monde, on ne pourrait plus les financer. Hein. On ne peut plus les... Je veux dire, le système qu'on a médical, il est nourri par un système capitaliste de croissance. Et la longévité, tout ça, c'est un coût énorme. Et il faut le financer. Et ce n'est pas en prenant les sous à Bernard Arnault qu'on va le financer. Hein. Par exemple, on détient les handicapés, il faut faire quelque chose pour les handicapés, il faut faire un tas de choses. Tout ça, c'est basé sur un certain mode de vie, une certaine économie qui crée beaucoup de plus-value, qui permet aussi aux plus pauvres, en quelque sorte, d'avoir un toit sur la tête, de manger à la faim, avoir des services, mais qui puissent sur la terre, en vie. Voilà.
Donc globalement, pour changer les choses, il faudrait déconstruire le patriarcat, changer de modèle économique et déconstruire le capitalisme. Quelle vision, quel regard vous avez sur ça? Quels espoirs vous portez par rapport aux années à venir?
Moi, je pense que ça serait formidable si on pouvait faire conscience du problème démographique qui existe en Europe, en Afrique, qu'en France, par exemple, on a un système d'allocation familiale qui est aberrant. Plus vous faites d'enfants, plus vous êtes payé. Et le premier enfant, vous ne recevez rien. Donc, de toute façon, un deuxième. Nous, on propose qu'on revoie ce système. Et Yves Cochet, qui est la personne un peu connue dans le milieu, a dit, tiens, il faudrait, à mon avis, payer beaucoup pour le premier enfant, un peu pour le deuxième, et à partir du troisième, rien du tout. Ça serait une des mesures. Hein, voilà, et ensuite, moi, je pense, dans le tiers-monde, il faudrait lier toute aide économique dans le tiers-monde, il faudrait lier à une politique démographique dans les pays. Or, le problème qu'on a en Afrique, c'est surtout les leaders. Sur les 39 pays en Afrique qui existent, 37 chefs d'État veulent pas du tout en parler de la démographie. Et sur les fameuses COP, on se gargarise des COP, on ne parle pas de la démographie. Et quand il y avait eu la COP 25 à Paris, il y avait des velléités d'en parler. Eh bien, c'est les États, certains États africains, certains États islamiques, ils ont fait un veto. On n'en parle pas. Vous voyez ? Voilà le problème. Et tant qu'en France, l'écologie n'en parle pas ou avec des arguments qui, à mon avis, ne sont pas justes, autant que la Bayrou, il a dit, tiens, il y a un problème de natalité en France pour payer les retraites. Là, on va dans un mur. Hein.
D'après vous, pourquoi ces sujets sur la démographie sont si tabous?
Moi, je pense, l'homme en lui-même, il a envie de procréer, c'est dans sa nature, hein, déjà, il y a un problème. Et ensuite, je pense, ici, l'écologie étant de gauche en France, il soupçonne des gens comme nous, en quelque sorte, qu'on veut s'attaquer à l'Afrique. Et pas avoir la consommation ici. Ce qui est faux, on sait, on est trop nombreux ici, on consomme trop. Je pense, on est trop nombreux en Europe. Mais il y a un problème africain. Il y a un problème africain, et on le voit chaque jour. Il y a un très grand problème africain par la migration. Ceci étant dit, vous savez, un Érythréen qui s'installe en France, son empreinte écologique, il augmente de 10 fois. C'est-à-dire, c'est une aberration écologique de faire venir quelqu'un d'Afrique en France. Je ne veux pas dire que c'est l'ultime argument, mais les gens qui les font venir, les écolos, qu'ils réfléchissent aussi à ce problème-là. Bon, ceci étant dit, donc on nous soupçonne pratiquement d'être contre les Africains, contre le tiers-monde, et à partir de là, vous êtes hors jeu démocratique. Hein. Et ensuite, par exemple, ce qui est dingue, il y a ce qu'on appelle l'écoféminisme maintenant. Évidemment, toutes les politiques sont maintenant écologiques. et les femmes écolos, là. Madame, comment elle s'appelle, Rousseau, là, hein, ben, elle, qui est féministe, écolo, à fond, la caisse, mais les femmes en Afrique, elle n'en parle pas, hein. Elle n'en parle pas, ou peut-être elle dit, nous, les Européens devraient faire en sorte qu'ils aient des écoles, l'éducation et tout ça, mais voilà.
J'ai une question à vous poser qui est plus personnelle. Est-ce que vous-même, vous êtes père d'enfants ?
Oui. D'abord, je suis d'une fratrie de 7 enfants. À l'époque, ça se faisait encore. Et j'ai 2 enfants, voilà.
Vous êtes du coup beaucoup plus âgé que moi. Les gens de ma génération, moi, j'ai la trentaine, j'entends beaucoup parler autour de moi de personnes qui, du coup, ont été tentées, ont eu un désir d'enfant, qui, pour autant, ont une anxiété sur le monde. Sur le développement durable, ils ont peur en fait d'amener des enfants dans un monde très incertain. Quel est-vous votre regard justement sur ce
mouvement? Alors
sur
il y a ce mouvement No Kids, qui sont aussi parfois très heureux. Et quand j'ai fait des conférences, il y a des gens qui disent oui, effectivement, c'est un très grand problème. Nous, en démographie responsable, on ne milite pas pour ça. Il y a le tout, il y a les no-kids, il y a des kids et tout ça. Pour moi, c'est plutôt un symptôme d'une mal-être qu'il faut affronter. Hein. Moi, mes enfants sont adultes, mais évidemment, il y a un problème là. Hein. Il y a un problème, mais no-kids, pour moi, c'est pas vraiment la solution. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait arriver à décroître. Et on a fait des calculs. On a fait des calculs combien coûterait la transition écologique et combien coûterait pratiquement un planning familial, mais vraiment efficace et tout ça en Afrique ou dans le tiers-monde ou même chez nous. Et c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. La transition écologique avec... je crois dans ma brochure, il y a des chiffres qui ont été calculés. Ça revient beaucoup moins cher. Les gens disent, mais on n'arrive pas parce qu'on n'essaye pas. Et c'est beaucoup moins cher.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez rajouter?
Non, écoutez, j'aimerais que les gens rejoignent notre association. Vous pouvez nous trouver sur Internet, demographieresponsable.org.
Donc www.demographie-responsable.org.
Voilà.
Un grand merci Martin Roth pour cette intervention. On espère que vous allez passer une très bonne journée. En tout cas, on a passé un très bon moment en votre compagnie, en direct du Salon Prime Vert à Lyon. Un grand merci. Et une très bonne
merci
journée.
À vous. Merci à vous.
C'était le salon Prime Vert à Eurexpo, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.